Chapitre 51. Anneau équatorial. Prospero était assis là, vêtu d'une longue robe bleu roi brodée de galaxies, de soleils, de comètes et de planètes d'or. Il tenait dans sa main droite, tavelée par les ans, un grand bâton ouvragé, la gauche étant posée sur un livre épais de 30 bons centimètres. Son fauteuil au dossier sculpté et aux larges accoudoirs n'était pas tout à fait un trône, mais il s'en rapprochait suffisamment pour l'investir d'une autorité magistrale que son regard glacial ne faisait que renforcer. Il était presque chauve, mais une couronne de cheveux blancs lui recouvrait les oreilles et retombait en cascade sur le bleu de sa robe. Sa tête, jadis orgueilleuse, était perchée sur un cou étique, mais il avait un visage exprimant un caractère en acier trempé, des petits yeux indifférents, sinon franchement cruels, un nez aquilin, un menton fermement sculpté en dépit des bajoux qui naissaient autour de lui, et de fines lèvres de sorcier dessinant un pli ironique. Il s'agissait d'un hologramme, bien entendu. Tout comme Daeman avant lui, Harman fit irruption à travers la membrane semi-perméable et s'effondra sous l'effet d'une gravité imprévue. Puis, voyant son ami assis sur un fauteuil d'aspect confortable et débarrassé en outre de son masque osmotique, il ôta son propre masque, inspira à fond l'air frais et gagna en trébuchant le troisième siège de la pièce.
« La gravité n'est que d'un tiers de G, » déclara Prospero. « Mais elle doit vous paraître digne de Jupiter après un mois à zéro G ou presque. »
Ni Harman ni Daeman ne lui répondirent. Il se trouvait dans une salle circulaire d'une quinzaine de mètres de diamètre, dont les parois transparentes dessinaient un dôme hémisphérique. Daeman ne l'avait pas vu lors de leur approche de la cité de cristal, car ils avaient abordé l'astéroïde par le sud et elle était située au pôle nord. Mais elle devait ressembler à un champignon lumineux posé au sommet d'un bâton métallique. Abstraction faite de l'éclat provenant de la Terre, de la Lune et des étoiles, elle n'était éclairée que par un panneau de contrôle virtuel placé en son centre. Daeman parvenait sans peine à distinguer les détails complexes des broderies sur la robe du mage, ainsi que les gravures impeccablement cirées sur son bâton.
« Vous êtes Prospero ?» déclara Harman.
Il respirait par à-coups sous sa thermopeau bleue. Daeman lui aussi avait été choqué par cet air frais, comme s'il humait un vin capiteux. Prospero opina.
« Mais vous n'êtes pas réel, » poursuivit Harman.
Pourtant, il avait l'air solide. Sa robe dessinait un splendide drapé conforme à la gravité ambiante. Prospero haussa les épaules.
« C'est la vérité. Je ne suis que l'écho enregistré de l'ombre d'une ombre. Mais je peux vous voir, vous entendre, vous parler, et vos épreuves m'inspirent de la compassion. » Certains êtres pourtant réels n'en sont même pas capables.
Daeman jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il tenait le pistolet noir dans son giron.
Caliban peut-il venir ici? Non, répondit Prospero. Mon ancien serviteur me craint, redoute ce souvenir parlant de moi-même. Si la mégère aux yeux bleus qu'il a enfantée, cette horrible sorcière quantique de Sycorax, était ici, sur cette île, elle se jetterait sur vous en un instant, mais Caliban me craint.
« Prospero, » dit Daeman, « nous devons partir d'ici, retourner sur Terre, vivant. Pouvez-vous nous y aider ?»
Le vieil homme cala son bâton contre son fauteuil et leva ses deux mains tavelées.
« Peut-être. »«
Seulement, peut-être ?» interrogea Daeman.
Prospero acquiesça.
« Je ne suis que l'écho du nombre enregistré et je ne puis rien faire. Mais je puis vous donner des informations. À vous d'en tirer parti si vous en avez la volonté. » « Rares sont ceux qui l'ont parmi vos semblables. »«
Comment pouvons-nous partir d'ici ?» demanda Harman.
Prospero passa une main sur son livre et un hologramme se déploya au-dessus de la console circulaire placée derrière lui. Il représentait l'astéroïde et la cité de cristal, vus depuis un point de l'espace distant de quelques kilomètres,
les tours dorées à leur fin tournant lentement au rythme de la rotation de l'ensemble. Daemon jeta un coup d'œil en direction de la Terre bleue et blanc qui venait d'apparaître à l'extérieur et constata que l'image était synchrone avec son mouvement. C'était une vue en temps réel prise depuis l'espace.
« Là !»
s'écria Arman en pointant le doigt. Il voulut bondir de son fauteuil, mais la gravité le retint et il s'accrocha à la coudoir.
« Là !»
répéta-t-il. Daemon avait vu. Sur une corniche saillant 150 ou 200 mètres au-dessus de la tour par laquelle ils étaient entrés, sa coque métallique luisant au clair de terre, un Sony.
« Nous avons fouillé toute la cité, » dit-il. « Pas un instant. Nous n'avons envisagé qu'un véhicule puisse être rangé dehors. »«
On dirait le Sony que nous avons abandonné à Jérusalem, »
dit Arman en se penchant pour mieux voir l'affichage holo.
« C'est bien lui, » dit Prospero.
D'un geste de la main, il fit disparaître l'image.
« Non, » fit Daemon. « Sa vie nous a dit qu'un Sony ne pouvait pas voler jusqu'aux anneaux orbitaux. »
« Elle ignorait ce détail, » déclara le vieux mage. « Ariel l'a dégagé des rochers sous lesquels les Voynix l'avaient enseveli et l'a programmé pour venir jusqu'ici. »«
Ariel ?»
répéta stupidement Daemon. La faim et la fatigue menaçaient de le terrasser. Il fouilla dans sa mémoire.
« Ariel ?
L'avatar de la biosphère planétaire ?»«
Quelque chose comme ça, »
dit Prospero avec un sourire.
Sa vie n'a jamais vraiment rencontré Ariel. Ils n'ont fait que communiquer via l'Olnet. La vieille femme a toujours attribué une persona masculine à Ariel, alors que cet esprit préfère d'ordinaire les avatars féminins.
« Qu'est-ce que ça peut foutre ?» songea Daemon.
« Pouvons-nous prendre ce Sony pour regagner la Terre ?» demanda-t-il à haute voix.
« Je le pense, » répondit Prospero. « Ariel a dû le programmer pour vous reconduire tous les trois au château d'Ardis. Encore un Deus ex machina. La présence de cette machine ici ne me plaît guère. »«
Pourquoi donc ?»
fit Arman, qui ajouta aussitôt.
« Caliban. »«
Oui, » dit Prospero. « Même mon vigoureux gobelin verrait ses articulations se convulser et ses tendons se nouer de crampes s'il s'aventurait sans protection dans le vide spatial. » Mais il a oublié ce détail et déchiré d'un coup de dent la thermopeau de cette pauvre Savi.
Il aurait pu s'en procurer deux autres durant le mois écoulé,
dit Daemon d'une voix si faible que le murmure de la ventilation faillit l'étouffer. Le croissant de terre sortit de leur champ visuel, et la pièce se retrouva éclairée par le seul firmament. Une demi-lune montait au-dessus de Prospero.
« Et il n'aurait pas hésité à le faire, mais Caliban n'est pas un dieu, » dit le mage. « Si elle ne l'a pas tué, la salve de fléchettes que sa vie lui a logée dans le torse l'a grièvement blessée. » Caliban a fait retraite pour se soigner, se réfugiant dans la plus profonde de ses grottes, où il panse ses plaies avec de la boue et reprend des forces en buvant du sang de lézard.
C'est aussi le régime que nous avons suivi,
dit Daemon.
Oui, fit Prospero en souriant de ses dents jaunies par l'âge. Mais vous n'y avez pris aucun plaisir.
Comment pouvons-nous parvenir au Sony ?
Demanda Arman.
Et avez-vous de la nourriture ici ?
La réponse à la seconde question est non. Cela fait 500 ans que personne n'a mangé sur cette île rocheuse. Personne, hormis Caliban. La réponse à la première question est plus positive. Il existe sur cette tour une membrane par laquelle vous pouvez accéder à la terrasse de lancement. Vos thermopeaux vous protégeront peut-être, le temps que vous chargiez le Sony et activiez son programme de guidage. Vous rappelez-vous comment on pilote cet engin ?
Je crois, j'ai observé sa vie. Je veux dire...
bredouilla Arman. Il secoua la tête comme pour chasser des toiles d'araignée. La fatigue qui se lisait dans ses yeux était l'égale de celle qu'éprouvait Daemon.
« Nous y arriverons, » conclut-il. « Il le faudra bien. »
« Pour atteindre cette tour, vous devrez traverser la firmerie et passer à portée de Caliban, »
précisa Prospero. Ses petits yeux allèrent d'Arman à Daeman comme pour les juger.
« Avez-vous autre chose à faire avant de fuir cet endroit ?»«
Non, » répondit Arman.
« Oui, » affirma Daeman.
Réussissant à se lever, il alla en chancelant jusqu'à la cloison en verre incurvé. Le reflet qu'il y vit était celui d'un homme hagard, émacié, barbu. Mais il y avait dans ses yeux un éclat nouveau.
« Nous devons détruire l'infirmerie, »
déclara-t-il. « Nous devons détruire la totalité de cet enfer. »